Canalem, on aime l'été.
Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Clotilde Seille au micro de Canalem, mais je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de...
Emmanuel Robitaille.
Alors aujourd'hui à l'émission l'inspectrice Manu passe notre vertu, notre plus grand bien, et puis le français d'Acadie, une langue fleurie, une langue riche qui mérite son deuxième dictionnaire.
On retourne faire un petit tour à Victo, la ville la plus accessible du Québec, avec Benoît. Roé Benoît Racette, lui, évoque cette réalité. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui vivent encore en couple. Mais c'est quoi leurs besoins?
Et puis, on sort et on lit dans la dernière partie de l'émission. On se divertit dehors et partout au Québec avec l'ami Maxime. Et Hélène Gauthier nous invite à ouvrir nos oreilles à quelques livres disponibles au SQLA.
Je me suis perdu dans les chemins de compagnie, peinard bas par de vue, bel job que je me suis dit. Fallait que je me sorte de là, j'ai appelé la CEPAC. J'avais du temps devant moi, c'est pas que j'ai vidé un lac. Qui c'est que je vois l'Indien, pas de bonne humeur, pantoute, avec les oreilles dans le crin, il me dit tu détruis tout. Quand même que ça sera de ma faute, que c'est que tu veux que ça me fasse? Si c'est pas moi, c'est un autre qui va le faire à ma place. Moi, tout, je n'ai des enfants, lui laisse des beaux restants. Puis s'ils sont pas contents, le reste l'agonistan. Puis toi, toujours vivant, dis-toi que c'est mieux que rien. Puis si t'es pas content, tombe donc d'où c'est que tu viens. J'pige, pige, pige, ben correct, ben correct. Spiel, j'sais plus quoi faire avec. Moi j'en vois pas de problème, ski doux, si doux, quatre roues. J'suis dans le club des bains de même, des fiumes pis bain de la broue. C'est pas dans mes talents d'expliquer l'existence. Ce cerveau a deux temps, ça pense pas, ça dépense. Fier d'être ignorant, pis ça c'est un droit acquis. Pas besoin d'être savant quand t'as une carte de crédit. En fait, moi j'ai deux bacs, un bac vert, un bac bleu. Un pour les faces à claque, dans l'autre ma déquête. Pis laisse-moi pas tout seul avec un écolo. Une coupe de claque sa gueule, pis ça va faire de l'écho. Il t'offra pas une ronde avec ses beaux discours. Il voudra sauver le monde, il va sauver tout court. J'pille, 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 ben correct, ben correct. J'pille, 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 j'sais plus quoi faire avec. Le développement durable, c'est pour ma grosse bedaine. Puis j'suis même plus capable de me voir le bout de la graine. J'suis dans le port des papiers, ben assis sur mon cul. Il n'y en a rien à chier, la top de la FTQ.
C'était Richard Desjardins qui nous expliquait le développement durable.
Alors que Manuel, eh bien, elle a pris sa petite loupe pour aller regarder dans son petit jardin si des fois il y avait des trèfles à quatre feuilles. Mais non, elle est allée beaucoup plus loin que ça.
Ben, quand même. Mais des trèfles à quatre feuilles, c'est quand même agréable.
On faisait ça quand on était jeunes.
Mais hein?
Écoute, tu sais, on se mettait à quatre pattes avec une loupe, là, puis on se prenait pour des Sherlock Holmes en herbe. Ah! Ah!
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
Ah! Elle est bonne! Elle est bonne! Elle est très bonne. Allez.
Écoute, tu me surprendras toujours. Si je te dis la sylvothérapie.
Oui, les arbres. Non?
Ben, ça, c'est ça, on a triché parce que je t'ai quand même donné un peu mon... Mais tu savais ce terme-là?
Ben oui,
mais
quand
j'en
même.
Ai déjà parlé sur nos ondes à
mais
Canalem.
Mais c'est pour ça que je le savais, parce que je t'avais écouté.
Exactement, oui, c'est ça. Oui. Merci. Merci, Clotilde. Alors, effectivement, la sylvothérapie, mais j'en ai déjà parlé, oui, sur nos ondes à Canalem, oui, mm-hmm, ou sur le Canalem, à Aime la vie qui va reprendre lors de la saison régulière de notre programmation ici à Canal M. Parce qu'on va continuer après M l'été, on ne disparaît pas.
Bientôt, c'est dans un mois, Cuba, hein, la nouvelle programmation. Manquez pas ça. Ouais.
Et c'est soit le Shirin Yoku, oui, en japonais, c'est la sylvothérapie ou les bains de forêt. C'est un art, c'est une thérapie pour nos déficits en nature. Pour refléter notre manque de contact avec elle. D'ailleurs, il semble que les Américains passent 93 % de leur temps à l'intérieur.
Et là?
93 % de notre temps, on le passe entre quatre murs.
Ah oui, parce que quand tu dis les Américains, c'est ça. On parle de l'Amérique du Nord.
On y va. Ben, les Américains, habituellement, on nomme, sincèrement, dans la terminologie, elle n'est pas toujours claire.
Eh non, donc, mais c'est grave, ça.
Mais ça reste, on va dire, en Amérique du Nord, même si c'était juste aux États-Unis, on s'entend que notre mode de vie n'est pas très loin. Là. Alors, et voilà. Et donc, ça augmente nos risques de maladies physiques et de maladies mentales. Et c'est pourquoi c'est important de se rappeler que cette thérapie-là, elle est une thérapie officiellement reconnue au Japon et elle consiste à être en contact avec le monde de la nature via tous nos sens. Et c'est pas d'aller faire de la randonnée, c'est pas des activités qui nous amènent dans le faire. Il s'agit d'être. Dans la nature. Oui, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Et les bienfaits sont très nombreux, dont la diminution du stress qui est accompagnée d'une réduction des symptômes de dépression, d'anxiété, de fatigue, de colère, même d'hypertension, de syndrome métabolique, de maladies cardiovasculaires et même des risques de souffrir de diabète de type 2, en plus de l'augmentation de la production des protéines qui combattent le cancer et les cellules immunitaires.
Si on veut en savoir plus, hein, si on veut être mieux équipé pour savoir, bon, on lit quoi? Est-ce qu'il y a des références?
Parce que c'est bien le fun, mais c'est le fun de savoir aussi qu'est-ce qu'on fait et faire bien.
Bon.
Alors, j'ai quelques livres ici de référence qui vont être très, très utiles si on veut commencer à utiliser les bienfaits de la médecine des arbres correctement, à commencer par le livre du docteur King Lee, immunologue, dans son livre « Shirin Yoku, l'art et la science du bain de forêt, comment la forêt nous soigne », paru aux éditions First. Alors, je répète, c'est le Shirin Yoku.
Ça s'appelle, hein?
S-H-I-N. R-I-N, Y-O-K-U, du docteur King Lee. Ça, c'est un ouvrage de référence et c'est un grand maître de la sylvothérapie.
D'accord.
Le livre « La sylvothérapie, le pouvoir bienfaisant des arbres, la référence » de Jean-Marie Desfossés aux éditions Jouvence. En français, c'est un érudit de la sylvothérapie. Le livre « Découvrir la sylvothérapie » par Laurence Mons aux éditions Interéditions, et le livre numérique, finalement, « Forêt et santé, le guide pratique de sylvothérapie » par Georges Plaisance, qui lui est disponible en PDF. Donc, si vous êtes amateur de lecture sur tablette, ça peut être excellent, peut être parfait pour vous.
Manu, on dit que les plantes possèdent un système immunitaire.
Il paraît.
Il fonctionne comment?
Écoutez, c'est fascinant comment le système immunitaire, parce que là, on vient de dire comment les plantes vont aider notre système immunitaire, mais il y en a un eux-mêmes.
Ouais.
Et comment ils se protègent de leur environnement, c'est absolument fascinant. Parce que le premier constat, c'est que les plantes ont des cellules qui les protègent des éléments pathogènes nuisibles. On parle de la pollution, on parle de différents insectes. La première protection que les plantes ont, c'est une barrière externe qui est faite de cuticules, d'écorce et de cire. Donc ça, ça crée une barrière première, un peu comme du silicone, on va se le dire de même à peu près. Et juste en dessous...
Mais c'est comme la peau quand même.
Ben oui.
Parce que si on n'avait pas la peau, voilà. Bon, OK.
Exactement. Juste en dessous, il y a une couche de cellules avec des récepteurs qui identifient les menaces potentielles. Donc, eux, ils scannent là, et là, ils se disent « OK, il y a telle chose là, tel pathogène là ». Ils informent le système immunitaire à l'intérieur de la plante qui, lui, se déploie avant que la menace arrive.
D'accord.
Et là, à ce moment-là, il va renforcer cette première barrière à l'extérieur qu'on a parlé, qui ressemble à notre peau. Et ça va augmenter la protection. Mais si cette barrière-là finit par être pénétrée malgré tout, la plante va envoyer un signal pour que les cellules s'auto-détruisent autour de la zone touchée pour pas que ça se propage. Fait que ça va s'auto-protéger en s'auto-détruisant. Ça, c'est fascinant. Et non seulement ça, mais les régions qui sont en train de se faire attaquer, en plus de s'auto-détruire, ils vont aller envoyer des signaux dans d'autres zones de la plante pour avertir des dangers potentiels, soit par des hormones, des particules dans l'air ou des signaux électriques. Et les autres régions vont nécessairement augmenter leur production de cellules protectrices.
Autrement dit, si par exemple, je sais pas moi, une chenille, n'importe quoi, hein, attaque, il va y avoir comme des éléments qui vont faire hey, hey,
hey. Si une, ça c'est encore mieux. S'il y a une chenille qui arrive sur une feuille précise, cette feuille-là peut commencer à s'autodétruire elle-même pour éviter que la chenille, bon, que les maladies transmises par la chenille se propagent. Ils vont avertir d'autres endroits de la plante pour dire attention chenille, et au-delà de ça, ils peuvent envoyer par signaux électriques des demandes d'aide de corps extérieurs pour venir attaquer la chenille. Comme par exemple, c'est des signaux chimiques. Là, ils peuvent demander à la guêpe parasitoïde, clairement, qui est un prédateur de la chenille, pour venir aider la plante. By the way, t'as de la nourriture ici, tu peux venir et en même temps, ça m'aiderait, ça me donnerait un coup de main, tu pourrais l'enlever de sur moi et m'aider à arrêter de mourir. C'est fascinant.
Ah oui, c'est fascinant.
Ça, ça l'a dépassé tout ce que je pouvais m'imaginer de ce que les plantes pouvaient faire. C'est comme ça qu'elles se protègent, nos plantes. Et je vous laisse sur une belle histoire d'amour entre plantes et citoyens. Ça se passe à Melbourne, en Australie. Et ça m'a touchée beaucoup. C'est la ville a mis sur pied un projet qui visait, bon, c'est une adresse courriel qu'ils ont mis à la disposition des citoyens pour que les citoyens écrivent en cas d'arbre malade ou atteint par la foudre. S'ils voyaient un problème avec un arbre, ils pouvaient écrire à cette adresse courriel-là, en avertir la ville et la ville s'en occuperait. Mais le projet a changé de but complètement, ou du moins n'a pas servi à ce qu'il devait servir. Les citoyens se sont mis à écrire à cette adresse-là. Ils se sont mis à écrire des lettres d'amour aux arbres, en leur disant à quel point ce n'était pas la branche tombée qui les avait, qui avait capté leur attention, mais bien leur splendeur. Merci, grâce à toi, je peux étudier à tes racines à tous les jours. Merci. Et ça a été finalement un échange, une communication avec les arbres, empreint d'amour et de tendresse. Et j'ai trouvé ça tellement beau que je trouvais que pour Emletée, ça donnait un peu d'amour.
Ben oui, et on en a besoin. Merci beaucoup, Manu.
Qui c'est qui a coupé la liane pour fouetter Gino et Martin? Sans mouiller l'après-midi, Gino et avait buté dans le camouski dans le bois de la pécanière. L'idée de mal faire calculer, il l'avait bu, déjà qu'il l'avait pris pour lui voir plus tard. Et l'époque, il l'a trouvé au pied d'un homme en train de dormir, le moonshine avait touché son idée. Il l'a ramené mec au camp, c'est l'homme qui a décidé, tout le monde sentait l'or, sont venus le fouetter. Était fâché, son fusil était chargé avec des bosses. Le premier coup qu'il a tiré, mort, oui, qu'a tombé mort. Tout le monde sentait là, s'en sauver dans le bois. Le corps a pour barouin qu'il l'a ramené aux quatre coins devant la place à Tandoxy ou à l'igname. Tout le monde du voisinage qui était là pour l'observer me fait carrière, c'est le premier qui arrivé.
qui c'est qui a coupé la liane pour fouetter Gino et Martin?
Le malheureux, il savait pas l'erreur qu'il avait faite quand il est arrivé avec la liane dans la main.
Qui c'est qui a coupé la liane pour fouetter Gino et Martin?
Ils vont filer avec sa vie cet après-midi avant que le soleil se couche.
La formation Surois, oui, qui nous offrait La Liane.
Qui nous amène tout droit vers Yves Cormier, qui doit déjà être au bout du fil. Bonjour, Monsieur Cormier.
Bonjour.
Monsieur Cormier, Yves, vous êtes l'auteur de cet ouvrage absolument hallucinant, deuxième du nom, du Dictionnaire du français acadien. Quand j'ai vu passer un article, je pense que c'était dans un journal de la Nouvelle-Écosse, je ne sais plus, je me suis dit, je veux parler à ce Monsieur Cormier. Ce Cormier, c'est un trésor national que vous nous offrez là.
On ne m'a jamais présenté le dictionnaire de cette façon.
Mais moi, je vous le présente comme ça et j'en suis ravie parce que quelle recherche! Bon, évidemment, vous n'avez pas fait ça tout seul, hein, on s'entend.
Quasiment. J'ai passé bien des soirées seul avec des anciens manuscrits, etc.
Oui.
C'est un travail qu'on fait parce qu'on aime... parce qu'on aime les vieux mots.
Oui, c'est ça. Mais entre autres, vous avez utilisé le trésor de la langue française.
Oui,
c'est ça. Ça ressemble à quoi, le trésor de la langue française?
Le trésor de la langue française qui se trouve à l'Université Laval, c'est un centre qui avait été créé il y a peut-être 25 ans. Et à l'époque, on avait reçu des subventions pour travailler un dictionnaire pan-canadien,
oui,
francophone. Ce qui fait qu'ils ont accumulé beaucoup de données sur le français acadien.
Ouais.
Et en fait, on avait plus d'informations sur le français acadien, ouais, à Québec qu'ici, en Acadie. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches là-bas.
Et si vous me le permettez, je voudrais citer les premiers mots. Ben, les premiers mots, remarquez, il y en a beaucoup de premiers mots, mais parce qu'il y a quand même à peu près 80 pages d'historique, de géolangage, est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
Géolinguistique,
voilà,
oui.
Voilà, et donc c'est pour ça que je dis que c'est un manuel absolument précis, mais ces premiers mots-là, le temps n'est plus où l'on fermait les yeux sur la diversité des usages de la langue française, en ne voulant y voir qu'un ensemble de mots figés dans une norme immuable. Les temps ont changé, et non seulement l'Académie française ne refuse plus systématiquement les apports extérieurs, mais elle envisage au contraire de les intégrer, avec lenteur certes, dans le français de référence. Autrement dit, finalement, les anglicismes, que ce soit en Acadie comme au Québec comme en France, c'est en train de devenir normal et même normalisé par l'Académie française ?
Comme vous l'indiquiez, très tranquillement.
Oui, c'est ça.
Ça prend son temps.
Oui.
Mais effectivement, il y a une certaine ouverture. Je pense que ça parle du fait qu'on se rend compte que la planète rapetisse à vue d'œil à cause de tous ces moyens de communication que nous avons.
Oui.
Donc, on est moins allergique aux différences des différentes régions et entre autres l'Acadie. Donc, au Québec, vous avez quand même un poids politique,
oui,
et démographique important.
Mmh.
Donc, dans les dictionnaires français, votre présence est là depuis plusieurs années. Pour l'Acadie, c'est assez récent. Depuis une dizaine d'années, on a maintenant des marques Acadie, dans le Petit Robert et dans le Larousse.
Mmh.
Donc, on voit,
oui,
qu'il y a une ouverture aux différences culturelles et linguistiques à travers le monde.
Justement, vous en parlez de la situation minoritaire du français en Acadie. Il en est question de la valorisation du français. C'est tout cela aussi, cette deuxième édition du dictionnaire du français acadien.
Oui, on voit que vous avez bien lu les premières pages.
Je me suis passionnée pour ça. Mais non, mais je me suis passionnée parce que je trouve ça important de voir comment on présente un dictionnaire. Parce que souvent, et moi j'ai trouvé ça essentiel de lire toutes ces pages-là, Yves Cormier, qui nous amène ensuite alors au vocabulaire en tant que tel, dont nous allons parler maintenant, mais je trouve ça essentiel. De toute façon, sinon vous ne l'auriez pas écrit.
Oui, en fait, quand on quand je donne le livre a été lancé à quelques reprises ces dernières semaines en Acadie et quand je présente le dictionnaire, ben je demande à l'auditoire qui est majoritairement des Acadiens, des Acadiennes devant moi, et je leur dis mais qu'est-ce qui vous identifie aujourd'hui? Qu'est-ce parce qu'on n'a pas de mets national comme nourriture par le fait qu'il y a un mets dans chaque région, soit du nord du Nouveau-Brunswick, dans le sud, à l'île Prince-Édouard, je dis qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui pour vous identifier? Ben c'est la langue.
C'est la langue
qui nous identifie. Oui. Donc, je mets un peu l'emphase sur le fait qu'un dictionnaire est important pour nous reconnaître, pour nous identifier comme société distincte.
Il contient, ce dictionnaire, plus de 1200 entrées et plus de 2200 acadianismes.
Voilà.
Alors, le terme acadianisme, ça recouvre quoi exactement?
Ben, déjà, les dictionnaires, jusqu'à tout récemment, les dictionnaires français, les dictionnaires de référence, n'employaient pas le terme acadianisme alors que nous avions des québécismes dans les dictionnaires depuis les années 60.
Vrai.
Donc, on voit qu'il y a quand même une ouverture en utilisant le terme acadianisme, mais le terme acadianisme est quand même assez récent, même en Acadie, on l'a relevé, je pense, la première fois au milieu du 20e siècle. Donc, c'est tout récent qu'on admet une couleur qui nous est tout à fait particulière, qui nous appartient.
Et qu'on met encore entre guillemets, hein? J'ai vu.
Ben voilà.
Exactement. Je voudrais ensemble qu'on passe en revue, parce que c'est tout à fait délicieux, quelques mots, donc quelques acadianismes. Par exemple, la coutange.
Oui.
Qu'est-ce que c'est la coutange? Et là, je vois à côté de moi, parce que moi, vous allez me dire, OK, j'ai un gros accent, je suis né en France, mais j'ai passé quand même plus de la moitié de ma vie ici. Alors, je suis quand même habituée à énormément d'expressions, mais à côté de moi, j'en ai une pure laine.
Et alors, elle ne sait pas en tout ce que c'est. Sincèrement, non.
Alors, la coutange.
Donc, vous êtes en train de me dire que votre collègue est québécoise.
Oui, absolument, absolument.
Bonjour,
oui,
Camille, je vous écoute d'une oreille attentive.
Pour encourager notre cher collègue, votre cher collègue, sachez que l'Acadie et le Québec partagent beaucoup de mots, mais il y a quand même plusieurs centaines de mots que nous ne partageons pas. Et donc, coutange est un de ces mots. Et ça veut tout simplement dire une dépense d'argent. C'est de la coutange, ça coûte cher.
Ça coûte cher.
De la coutange.
Parce que ça s'écrit C-O-U, accent circonflexe, T, donc comme un coup. Il y en a un que j'ai adoré aussi, c'est le forbisseux ou la forbisseuse.
OK. Ça vient de forbir. Forbir, c'est un mot. La différence entre le français québécois et le français acadien, c'est le fait que nos origines sont différentes. Nous, les bateaux ont quitté le centre-ouest de la France, souvent à partir de La Rochelle, alors que pour le Québec, pour la Nouvelle-France, je devrais dire, on partait de la Normandie. Donc, ces mots sont plutôt spécifiques à certaines régions et forbir est tout à fait spécifique à la région du centre-ouest de la France.
Ah.
Et ce sont des mots qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Donc, forbir veut dire frotter, nettoyer. Un forbisseux, forbisseuse, c'est quelqu'un qui forbit, qui nettoie.
Autrement dit, la sagouine forbit.
Je ne peux pas trouver un meilleur exemple.
Ah, c'est ça. Et d'ailleurs, vous me tendez une perche. Je dois dire aux gens qui nous écoutent que sur quasiment chaque mot que vous citez, il y a l'origine géographique, entre autres, où le mot s'illustre en France, en vieille Europe. Et ça,
Mais quel boulot! J'apprécie que vous le dites parce que il y a deux choses, je pense, que les gens vont reconnaître dans ce dictionnaire qui fait que c'est assez exceptionnel. D'abord, j'ai mis la répartition géographique du mot en Acadie et même jusqu'au Québec et en Louisiane. Par le fait qu'à la différence du Québec, nous, en Acadie, la plupart des acadianismes ne sont pas dits ou utilisés dans toutes les régions acadiennes. C'est plutôt des poches linguistiques qui se sont développées après la déportation. la raison, c'est ça qui explique le fait que j'indique est-ce que ça vient au Nouveau-Brunswick, voilà. Est-ce qu'on le trouve en Louisiane, est-ce qu'il y a des attestations Gaspésie, parce que pour les Gaspésiens, on sait bien que le sud de la Gaspésie, ça a été colonisé par des Acadiens. Donc, c'est le drapeau acadien flotte sur plusieurs dans plusieurs villages et villes au sud de la Gaspésie.
Et voilà pourquoi, M. Cormier, je voulais à tout prix vous avoir à cette émission-là et permettez pour que les gens se rendent bien compte qu'on se quitte sur un exemple. D'accord? J'ai choisi le mot parce que je le trouve tellement beau. Pénaillon ou penaillon? On dirait plutôt pénaillon?
On peut le dire d'une façon ou d'une autre. Bon. Pénaillon.
Alors, permettez que je le lise hein, pour les auditeurs.
Je vous en prie.
Donc, parfois relevé sous la variante pénaillon, vêtement usé qui ne peut presque plus être porté, par extension torchon, braillon, etc. Et vous dites, alors c'est là, répartition géographique. Alors, on trouve ça à l'île du Prince-Édouard, ce mot-là, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. C'est précis, le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, au Cap-Breton. Et alors là, il y a un historique du mot. Depuis 1946, héritage des parlers de France, relevé sous la forme penaillon ou penayon au sens de vieille harde chiffon dans le nord-ouest et l'ouest de la France, attesté en outre en français du 16e au 19e siècle, toujours en citant Rabelais, parce que c'est Rabelais qui est cité là, entre autres, avec ce mot penaillon.
Oui,
Quelle recherche, Yves Cormier, pour cette deuxième édition, je le rappelle, du Dictionnaire du français acadien. Merci tellement pour ce beau travail.
Ben, c'est moi qui vous remercie de ce belle entrevue.
Mais je vous en prie.
Merci beaucoup.
Au revoir, merci. Au revoir, Yves. Je vous rappelle que tous ces beaux témoignages, ces belles entrevues, ces belles chroniques que vous écoutez, eh bien, font partie de la programmation de Canal M sur lesquelles vous êtes peut-être branchés en ce moment. Je suis Clotilde Sey, je suis en compagnie d'Emmanuel Robitaille. C'est l'émission M l'été qui se poursuit et je vous convie à rester des nôtres parce que beaucoup d'autres très beaux sujets sont à venir.
Vous écoutez M l'été.
Alors, en seconde partie, on va aller faire un petit tour à Victo, qui est la ville la plus accessible du Québec, avec Benoît Raux. Et puis, on va recevoir Benoît Racette, qui évoque cette réalité. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui vivent encore en couple. Mais quels sont leurs besoins sociaux? En attendant, je vous amène en promenade.
À mesure que le temps passe, je mesure le temps qui passe, et tandis que l'eau s'étend jusqu'à l'autre bout de l'étang, je regarde l'aube claire s'allonger sur les conifères. À l'aune, à l'orée du jour, le soleil sera de retour. En dépit des années noires, des années folles, des heures de gloire, à la lisière du torrent, j'irai m'asseoir sur un banc. On ira faire un tour de barque, on ira déjeuner au parc, on s'embrassera dans le cou, il y aura tout autour de nous.
If you listen, you can hear it call.
l'orée du jour, le soleil sera de retour. En dépit des années noires, des années folles, des heures de gloire, à la lisière du torrent, j'irai m'asseoir sur un banc. On ira faire un tour de parc, on ira déjeuner au parc. On s'embrassera dans le cou, il y aura tout autour de nous les cerfs-volants qui planent, quelques amants qui flânent, un petit vent, les parasols plantés dans le sol.
Oh là là, les parcs, les parasols plantés dans le sol, les cerfs-volants, tout ça m'amenait directement à Victoriaville. Bonjour, bonjour Benoît.
Ah, bonjour Clotilde, comment allez-vous?
Bien, bien, bien. Bon. Je ne sais pas si vous avez pu écouter cette chanson-là, mais c'est ça, c'était tellement promenade, soleil, verdure, les amoureux qui se prélassent, les gens qui marchent. En tout cas, pour moi, c'était Victo.
Ben oui, on est tout à fait prêt à les accueillir, ces gens-là. Évidemment, ce matin, c'est pas un parasol, mais un parapluie qui aurait été nécessaire.
Oui,
mais
c'est
bon.
Vrai.
Alors, bonjour Emmanuel.
Bonjour Benoît, comment vas-tu?
Ça va super
bien.
Oh,
t'as eu un petit accent français.
Tu trouves-tu?
Ah ben oui, comment vas-tu?
Moi, je réputais pour chanter quand je parle, mais peut-être pas en français. Mais quand même, malgré la pluie, tu souris, tu danses sous la pluie aujourd'hui?
Ah oui, toute la matinée, puis ça vient de se calmer un peu, mais le ciel est très gris, mais ça n'empêche pas que...
Ça n'atteint pas ton soleil intérieur, Benoît, je l'entends.
Bon, ça n'atteint pas...
Donc,
non, ben vas-y, je sais pas.
Je vous amène faire quelques circuits.
Oui.
On parle de tourisme, hein? Circuit touristique. Mais je veux juste rappeler une chose très importante, c'est que, bon, j'ai insisté beaucoup, vous savez qu'on est une ville inclusive.
Oui.
Et qu'on a une politique d'accessibilité universelle qui va jusqu'à avoir engagé une personne à temps plein à la ville qui s'occupe essentiellement d'accessibilité universelle. Donc, ça nous a amené la ville donc à établir en particulier 5 circuits touristiques adaptés avec des thèmes différents. On parle de plein air et nature. Mm-hmm. On parle sportif, on en a un qui est au développement durable, agro-touristique, dont je vais vous parler la prochaine fois, et un dernier, culturel et historique. Parce que, évidemment, au cours des années, la ville a défini ce qu'était son patrimoine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle souhaite non seulement rendre témoignage de l'histoire, mais elle veut aussi faire en sorte que le patrimoine soit une entité vivante et faire en sorte que non seulement on rappelle le passé, mais on vit avec, on interagit dans le présent, puis on le conserve pour les générations futures. Alors, avec toute cette optique-là, je vous amène d'abord faire un petit circuit touristique, bien sûr, mais historique, donc patrimonial. Et dans la partie que l'on appelle Arthabasca. Et ce qui est intéressant, c'est que ces circuits-là sont adaptés. Donc, bien qu'il y ait des panneaux d'interprétation un peu partout, les espaces sont dégagés, c'est facile d'y accéder, les hauteurs sont normalisées, de façon à ce qu'on ne soit pas obligé de, si on est en fauteuil roulant, par exemple, de se lever pour pouvoir lire. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on peut obtenir, avec des points de chute un peu partout dans la ville, là, des tablettes numériques qui nous aident à faire le circuit en particulier. Donc, il y a à peu près un peu plus que de 20 stations où on nous raconte les origines de Victoriaville et d'Arthabasca. On nous raconte qui a habité telle résidence, parce que vous savez que sur la rue Laurier, on a des résidences victoriennes absolument fabuleuses, avec des architectures qui font l'envie, hein. Et ça m'amène, ce circuit-là nous amène aussi à parler de patrimoine religieux, forcément. On a deux œuvres remarquables.
Incontournables. Au Québec.
Nous avons deux églises absolument remarquables. L'église de Saint-Christophe d'Arthabasca, qui a été construite 1873-1875, et celle de Sainte-Victoire à Victoriaville en 1897. Dans la première, qui fait partie de cette magnifique rue Laurier dont je vous parle, avec des points d'arrêt, puis des personnages aussi virtuels, hein, qui nous présentent ce qui se passe, ce qui se passait donc à la fin du 19e plutôt. Alors, ces deux églises-là contiennent des œuvres d'art assez intéressantes. Saint-Christophe, entre autres, il y a des œuvres de Chusor Côté, et on a la prétention de l'appeler, nous, notre chapelle Sixtine, parce que l'ensemble de l'église est décoré, oui. Les plafonds, les murs, d'à peu près 75 tableaux différents, inspirés de ce que l'on retrouve à la chapelle Sixtine, mais aussi dans les chambres de Raphaël, en tout cas au Vatican. Alors ça, c'est notre patrimoine, en fait les éléments les plus importants du patrimoine religieux. Mais, bien sûr, le patrimoine peut être aussi paysager, peut être immatériel, comme par exemple, on a dans tout près de chez nous, le moulin Lapierre.
Oui.
Hein? Alors, ça, c'est un moulin qui est en opération depuis 1845.
Wow.
Et qui fabrique encore ses farines.
Ah oui, il est en... Ah oui, oui, oui.
Ah oui, tout à fait. Alors, c'est ça qui est intéressant. Et en plus, on entre dans le patrimoine immatériel, mais c'est la méthode utilisée pour moudre les farines. Oui. Puis là, on parle de farine à tout, hein, farine à pain, à pâtisserie, mais épeautre, maïs, millet, enfin, tout ça, toutes ces choses-là. Et c'est fort intéressant parce que, bon, en fait, on peut le visiter en plus, hein, ça, c'est tout juste à côté. Et c'est un voyage dans le temps. Et c'est ça qui est intéressant. On se rend, en plus, c'est un peu bucolique, hein, parce que un moulin se trouve sur le bord de l'eau, puis avec la grande roue là, qui tourne et tout ça.
Comme la chanson Les cerfs-volants. Vous savez que l'heure tourne, il nous reste quand même un bon gros 2 minutes, mon cher
Ben. Oh my God!
Bon, c'est je vous en prie, appelez-moi Clotilde. Appelez-moi.
Je voulais vous parler rapidement aussi de, bon, peut-être de patrimoine paysager aussi.
Oui.
Parce qu'on est au pied des Appalaches et dans ces fameuses montagnes, puis avec la rivière Nicolette qui circule autour de la ville et dans la ville, notre peintre à nous, Chusor Côté, s'est souvent et longuement promené dans ces endroits-là. Et ça a donné des tableaux absolument remarquables. Autant, je sais pas, mais la rivière Nicolette au printemps, la rivière Nicolette l'hiver, ou la montagne, etc. Alors, ce paysage-là est devenu patrimonial, forcément. Et tout comme, par exemple, je vous ai souvent parlé du réservoir Baudet.
Oui.
Et là, je vais aborder la question des oiseaux.
Oui.
Il y en a plus de 265 sortes qui viennent faire un tour chez nous. Je vais juste corriger une petite chose que j'ai dit à Emmanuel. Je vous ai parlé de 2 millions d'oies, là.
Non.
En fait, c'est sur 10 ans. c'est 200 000 par année.
Je continue à être émerveillé quand même, Benoît. Tu ne tairas pas l'émerveillement, moi.
Bon, mais je peux vous dire que 200 000 oies blanches qui arrivent, là,
c'est
très
énorme, hein?
Impressionnant.
Ouais. Magnifique, hein? Pour l'œil.
Donc, le réservoir Baudet pour ses oiseaux, la montagne pour, évidemment, son panorama, hein, parce que par temps clair, à partir du mont Arthabasca, il est possible, bon, enfin, il faut le tester, là, mais il est possible de voir jusque la barre des Laurentides.
Ah oui.
Donc, c'est possible de distinguer quelques clochers, même des petites municipalités avoisinantes. On y trouve, bien sûr, la maison recyclée. Alors, donc, il y a tout plein de choses. Puis, il y a des lieux de mémoire comme, croyez-le ou non, mais ce soir, par exemple, il y a une visite d'un des plus anciens cimetières de la ville. Parce qu'il y a une spécialiste des sciences de la religion qui fait faire des visites et commente le patrimoine funéraire.
Mais pourquoi
ça
pas?
Ça aussi, c'est un type d'art très particulier.
Oui. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'art vivant, Benoît? Bon, excusez-la.
Sur ce rire, les amis, ce sera le tour de Victoriaville. On garde ça vif, s'il vous plaît. Et vivement, tout le monde. Benoît, merci infiniment. C'est tout le temps tellement intéressant.
Vous avez vu comment vous coupe ça? Allez, hop là!
Allez, hop là!
Eh bien, je vous présente.
Mais c'est parce que...
Bon, ben, on se revoit. Oui, la prochaine fois, on se revoit. D'accord. Alors, à bientôt.
À bientôt,
merci,
Benoît.
Merci, Benoît.
Merci, salut.
Bye-bye.
L'été, quand il fait beau soleil, je vois souvent passer de vieilles qui marchent en se tenant le bras. Elles s'arrêtent à tous les 10 pas. Quand j'entends leur éclat de rire, j'ai un peu moins peur de vieillir. C'est la chanson que je nous chante. Serons-nous deux vieilles amantes? Resterons-nous tendres complices de mes manies, de tes caprices? Dans le secret d'une maison, le château fort de nos saisons, où je fredonne un air ancien. Cet été, je ferai un jardin. Quand il fait beau soleil, je vois souvent passer de vieilles qui marchent en se tenant le bras. Elles s'arrêtent à tous les 10 pas. Quand j'entends leur éclat de rire, j'ai un peu moins peur de vieillir. C'est la chanson que je nous chante. Serons-nous deux vieilles amantes, descendant lentement le temps, et qui s'arrête de temps en temps. Tu cherches long, moi le soleil. Les gens diront, voyez les vieilles qui sont ensemble depuis toujours et qui mourront le même jour. Quand il fait beau soleil, je vois souvent passer de vieilles qui sont ensemble depuis toujours, qui partiront, le même jour.
Oui, deux vieilles de Clémence Desrochers, simplement pour vous amener le prochain sujet, mes amis, avec Benoît Racette.
Oui, parce que Benoît, Il y a une très bonne nouvelle dans ce que l'on va parler, c'est que l'amour peut durer toujours. La moins bonne nouvelle, par contre, dans cette chronique sociopop, c'est qu'on l'oublie ça, que l'amour peut durer toujours. Et on va parler des relations conjugales chez les aînés, chez les personnes âgées, qui malheureusement sont vues comme des personnes seules d'emblée. Et c'est pas toujours le cas.
Et il y a quand même tout un système qui fait qu'on oublie que ces personnes-là sont en couple. Et vous allez comprendre, aujourd'hui, je veux faire popper... Oui, je l'ai dit trop fort, encore une fois. Je vais faire popper une étude qui a été menée en Suisse. Hein? Et il y a des grandes différences en Suisse. En fait, l'étude s'intéresse à l'intervention sociale et aux couples aînés. Deux choses à dire. D'abord, vous allez entendre l'assistante sociale tout le long. Pour que vous le sachiez, ici, ça équivaut à technicienne en travail social. Mm-hmm. Mais le plus important, et c'est malheureusement... difficile à vivre pour les couples, c'est qu'en Suisse, il y a une majorité de gens qui sont à domicile, qui ont du maintien à domicile, et une minorité de gens qui sont dans les centres qu'on appelle médico-social en Suisse. Ici, c'est l'inverse. La majorité des gens sont en CHSLD, et structurellement, ça les divise, parce que c'est très rare qu'on va placer les couples ensemble.
Ça, c'est un point extrêmement important. Oui. L'institutionnalisation ici, au Québec, et son empreinte, sa conséquence, son impact chez ces couples-là, qui sont des familles et qui ne sont pas reconnus comme tels. On va en parler.
Ils ne sont pas reconnus comme famille, oui.
Mais qu'est-ce que cette étude-là soulève? Comment la conjugalité, elle est prise en compte ou pas dans le cadre de l'accompagnement social chez les personnes âgées?
Oui, bien, il faut d'abord dire que l'étude là, dont on parle, qui s'intitule « Accompagner des personnes âgées en couple, un angle mort du travail social », pour comprendre le phénomène, donne la parole à la fois aux personnes aînées et aux assistantes sociales. Mais soyons clairs, ce qui ressort de l'étude, c'est beaucoup la parole des assistantes sociales. Et c'est correct pour aujourd'hui parce qu'on comprend qu'elles oublient les personnes aînées, mais on n'entend pas ce que les couples, eux, auraient à dire. Ça serait peut-être dans le cadre d'une autre recherche où on pourrait voir. Mais donc, la conjugalité, le problème, c'est que, évidemment, les personnes assistantes sociales veulent aider les personnes une à la fois. C'est dans leur éthique de travail et par souci d'équité, par souci d'intervention plus juste, ont pas tendance à prendre les deux ensemble.
Donc, ça va être des interventions individuelles plutôt qu'en couple, de groupe, de famille, parce que, puis on va se le dire, dans les domaines sociaux, souvent, ce sont des domaines très particuliers, spécialisés d'intervention.
Oui,
le couple,
la médiation,
la famille,
de couple,
exactement.
Etc. Donc, et même les sexologues, donc, si on pense à la sexualité, c'est eux qui ont comme ce champ-là, puis c'est pas très valorisé, la sexologie chez les aînés.
Très tabou.
Bon. Mais il y a une autre chose qui est intéressante quand même, c'est que souvent, dans un couple, il y en a un qui prend le lead pour demander les services sociaux. Et ce qui se passe, au fond, c'est que c'est beaucoup à travers cette personne-là qu'on entend l'histoire. C'est pas toujours... Ben, en fait...
Madame ou monsieur?
Je pense qu'ici, c'est plus madame. Mais en Suisse, en tout cas, ce qui ressort de l'étude, on entend souvent monsieur qui parle plutôt que la femme. En tout cas, malheureusement, je peux pas faire une bonne analyse comparée, mais c'est intéressant comme
vraiment,
différence culturelle. Il y a autre chose, c'est que la perception des intervenantes est justement genrée. Et ça, c'est important de le dire.
Qu'est-ce qu'on veut dire par genrée?
C'est parce que, qu'on le veuille ou non, les femmes vivent une double discrimination lorsqu'elles sont à la fois femmes et personnes âgées. Donc, on ne peut pas faire l'intervention de la même manière si on est avec un homme et une femme. Puis, qu'on le veuille ou non aussi, il y a persistance chez les plus vieux d'un modèle où la femme est dépendante économiquement de l'homme. C'est sûr que ça va jouer sur peut-être la violence, le désaccord ou le pouvoir, tout simplement.
Et ces inégalités-là de pourvoyeurs, de rôles très traditionnels, finalement, de l'homme et de la femme dans un couple d'il y a fort longtemps, qui perdure et qui s'est cristallisé avec le temps, parce que c'est ce qui est arrivé. Oui. Les rôles se sont simplement campés davantage
à
gauche et à droite. Exactement. Comment ces inégalités-là dans les situations de couple, comment une intervenante arrive et pallie à ça? Ben, parce que c'est un acteur externe, ça, là. On
vous
peut
avez
pas,
tout à fait raison. Et ce qui est compliqué,
Tu es en train de me vous voyer, toi, là?
Non, ben oui, on dirait. Je suis rendu... enfin, bref, je m'en excuse.
Non, vas-y.
Mais ce que les assistantes sociales témoignent, c'est qu'elles évitent très souvent ces situations-là. Justement pour éviter de se retrouver impliqué parfois parce qu'il y a un accompagnement prioritaire qui est orienté sur un individu, ou encore qu'elles prétendent ou pensent qu'elles ne peuvent rien y faire. Et là, je vais citer, notamment lorsque les inégalités au sein du couple sont attribuées à une inégalité entre les hommes et les femmes, on laisse faire, ça fait partie, disons, de ce qu'on comprend des couples. On s'attend à ce que ça soit comme ça, inégalitaire, conflictuel, différent entre hommes et femmes. Donc, on laisse couler et on intervient sur autre chose.
Oui, puis c'est intéressant ce que tu dis. C'est comme une part de respect, entre guillemets, tout en étant un petit peu un malaise personnel, la personne.
Voilà.
C'est comme un beau mélange des deux.
Il y a une bonne part de tabou. Il y a même deux intervenantes qui en témoignent dans l'étude. Elles disent, bon, on ne sait pas. Puis pire encore, quand on parle de sexualité, et là, là. Là, il y a du tabou en masse.
Et là, puis on arrive à ça. Et pourtant, c'est pas exclusif chez les aînés, ça, qu'il y ait des rôles définis dans un noyau, qu'il soit un couple ou une famille. En quoi, chez les aînés, c'est plus complexe? Parce que c'est comme si cette vision-là, elle était perdue d'un noyau familial. Et on en parlait au début de cette magnifique chronique qui est l'institutionnalisation, entre autres, de sortir les gens de leur maison. C'est quoi cet impact-là?
Ben voilà, ça transforme la relation d'accompagnement social parce qu'on s'adresse plus à la personne. Dans un centre médico-social en Suisse ou dans un CHSLD au Québec, on ne s'adresse pas au couple, on ne regarde pas le couple, on est en face d'une personne qui a des besoins.
Monsieur ou madame a une perte d'autonomie, elle va nécessiter l'aide quotidienne d'infirmières, etc., etc. Oui. Et on ne prend pas en considération l'éclatement qui va s'en suivre, alors que si on pensait à mettre une maman dans un hôpital ou un papa à un hôpital ou une maman dans une prison, tout va être pris en compte.
Puis
on est beaucoup plus empathique à ça aussi.
On est plus empathique, mais en même temps, comme vous le dites, il y a une chose qui prend plus de place. Et des fois, ça aide pour les personnes en situation d'handicap, mais dans le cas de l'intervention, c'est pas facile. On remarque que les assistantes sociales lisent beaucoup la situation de dépendance par rapport à la vulnérabilité plus grande ou la maladie ou le handicap d'une des deux personnes. Donc, ça devient central et ça occulte peut-être tout le reste qui pourrait être beau dans un couple, hein, comme on chante dans les deux vieilles, là, aimer avec tendresse, veiller ensemble.
Ben, oui, effectivement. Donc, comment on va commencer à adresser ces personnes-là dans leur couple tout en restant à l'extérieur du couple? Comment les pratiques professionnelles s'enlignent pour respecter cette mince ligne-là?
On a une petite chance ici quand même. La sexologie s'est beaucoup développée. On a une très belle tradition sexologique. D'ailleurs, on invite souvent à la station une spécialiste, là, Sonia Boucher, qui vient d'un département à l'UQAM. Puis aussi, l'autre chose, je pense que dans le travail social au Québec, on comprend la dimension des femmes du genre un peu plus. On est plus attentif à ça. Et ça peut aider comment lire les conflits, les rapports de pouvoir chez ces personnes vieillissantes, je pense.
Bon, on se le souhaite et on souhaite que le respect augmente et que les malaises diminuent pour être en adéquation avec la réalité des personnes aînées qui sont toujours en amour. Merci, Benoît.
Merci.
Vous savez, on a parlé des plantes et des arbres, à quel point ils s'occupent de nous, mais aussi qu'ils s'occupent d'eux-mêmes. Il y a moyen de bien s'occuper de nos plantes à la maison. Je ne sais pas si vous avez le pouce vert. As-tu le pouce vert?
Oui, j'ai le pouce vert.
Oui, ben moi aussi, relativement, mais sachez qu'il y a des périodes plus difficiles où parfois, chez certaines personnes, c'est juste pas présent. Il existe un robot qui est programmé pour prendre soin de nos plantes. Il s'appelle le Exaspider Robot. C'est un robot avec des pattes qui forme un pot. OK? Un pot de plantes qui se déplace finalement sur ses pattes et il fait un paquet de choses pour nos plantes. Il poursuit la lumière quand la plante en a besoin et il assure une rotation pour couvrir la plante à 360 degrés pour une photosynthèse équilibrée. Parce qu'on fait ça, on touche.
Ben oui.
Il faut tourner nos plantes hein, pour qu'ils poussent droite. Il se met à l'ombre aussi quand la plante a besoin de fraîcheur. Et non seulement ça, mais il est interactif. Il peut jouer avec nous, il danse quand il prend soin de la plante et il fait de l'attitude.
Okay.
Quand la plante manque d'eau, il est intelligent, agile et responsable. Vous pouvez vous l'obtenir pour 949 $, mais les plans pour le fabriquer soi-même sont gratuits sur le site de la compagnie Vincross.
Ah, moi, les mythes déboulonnés au niveau de la bouffe, si vous saviez comment j'aime ça. Ça me fait jouir littéralement. Selon une croyance populaire, le repas vespéral, autrement dit le repas du soir, devrait être plus léger que le petit déjeuner et le dîner. Vrai ou faux? Eh bien, c'est absolument faux. Il n'a absolument pas été démontré dans toutes les nouvelles études qu'il était favorable de manger léger. Pourquoi? Parce que le corps brûle des calories à longueur de journée et à longueur de nuit. Vous écoutez Canal M? Aime l'été avec Emmanuel Robitaille et Clotilde Seille.
Vous écoutez Aime l'été.
Toujours en cette édition du mardi 7 août 2018, Clotilde Seille et Emmanuel Robitaille pour aimer l'été, oui, avec vous. Et pour cette dernière partie d'émission, on se promène à travers le Québec avec Maxime D. Pomerleau pour se divertir. Et Hélène Gauthier nous invite à ouvrir nos oreilles à quelques livres disponibles au SQLA.
Et que ce qu'on a tout au fond descend des étoiles.
Écrire, c'est beau, hein? Eh bien ça, j'ai trouvé ça, c'est une chanson extraite d'un DVD qui est sorti en France qui s'appelle « Je veux apprendre », chanson au pluriel pour les droits de l'enfant. Et c'est chanté par un chœur qui s'appelle « Les petits serruriers ». Et ça, donc la chanson s'appelait « Écrire » et c'est pour nous amener à Maxime Despomerleau et à son premier sujet puisqu'elle nous amène à Eastman. Bonjour Maxime.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci. Oui, écrire comme à Eastman, hein?
Ben exactement. Je commence avec un événement que toi, Clotilde, affectionne particulièrement.
Oui.
Le plus grand festival littéraire francophone en Amérique du Nord, et c'est les correspondances d'Eastman. Donc, chaque édition, ils mettent en valeur le travail d'une cinquantaine d'artistes, toujours autour des thèmes de la littérature, la littératie, l'écriture, sous toutes ses formes. Et cette année, pour la 16e édition, cet été, c'est sous le thème des coulisses de la littérature. Alors, le concept, rapidement, pour ceux qui sont moins familiers avec les correspondances d'Eastman, c'est de créer un événement de dimension internationale de l'expression littéraire. Et l'idée de départ était simple, c'était d'offrir aux passants l'opportunité d'écrire des lettres qui seront expédiées gratuitement partout dans le monde. Alors, autour de cette activité centrale, se sont développés plusieurs ateliers d'écriture, des mises en lecture, des spectacles, des expositions, de grands entretiens avec des écrivains, etc. Alors, est-ce qu'on regarde un petit peu la programmation?
Ben oui, bien sûr!
Super! Alors, ça commence ce jeudi, donc c'est vraiment tout le week-end. C'est la porte-parole cette année, c'est Stéphanie Boulay, l'une des deux sœurs Boulay, qui est aussi auteure. Elle a sorti un petit livre pour enfants dans la dernière année. Donc, jeudi, on commence avec elle, avec la cérémonie d'ouverture, puis un spectacle de David Goudreau, qui va mélanger poésie, humour et slam. Il pige dans son répertoire et ceux de Gérald Godin, Marie Huguet, Sol, Hélène Dorion et Zachary Richard, entre autres. Donc, on va vraiment dans plusieurs horizons. Vendredi, un spectacle musico-littéraire. Le quatuor Claudel interprète le roman « Le poids de la neige » de Christian Gay-Poliquin, qui a remporté vraiment un très, très grand succès dès sa sortie. Samedi, c'est un spectacle de Catherine Major. Dimanche, on va plutôt du côté du théâtre avec le spectacle Love Letters, une pièce écrite par A.R. Gurney, interprétée par Maude Guérin et Christian Vézina, et qui sont en fait vraiment de la lecture puisque c'est la relation épistolaire des deux personnages. Et autour de ça, ça c'est vraiment les spectacles principaux, mais il y a des cafés littéraires avec Christine Brouillette, Kim Thuy, Daniel Grenier, Alain Farah, Michel Plummer, Tristan Malavoy. On explore l'écriture du suspense, de l'essai, même l'écriture journalistique, puisqu'on va vraiment voir justement cette idée des coulisses de l'écriture. Il y a des activités dans l'espace jeunesse. Sophie Fauché fera une lecture sur Frida Kahlo aux enfants de 3 à 6 ans. Simon Boulris va parler de ses aventures rocambolesques aux apprentis bouquineurs de 11 ans et plus. Il y a des jardins d'écriture en bordure de la rivière, sur la piste cyclable, dans les jardins, sous un pont couvert. Bref, c'est vraiment un événement incontournable si on est des amoureux de la littérature comme nous sommes à Canal M.
Exactement. Et juste pour dire que c'est à échelle humaine, parce que la façon dont on en parle, là, on a l'impression que ça doit être... Mais non, tout est à échelle humaine là-bas. C'est des petites tentes pour se rencontrer. On croise des écrivains à tous les coins de rue. Si vous voulez parler à Kim Thuy, là, vous allez forcément croiser Kim Thuy, puis vous allez... Tu vois, c'est vraiment superbe. Bon, on change complètement de sujet?
Oui, on va du côté... Ben, on revient à Montréal, en fait. On va du côté d'un événement très, très important, la Fierté Montréal. Donc, le festival commence le 9 août, donc c'est du 9 au 19. C'est la 11e édition sous cette formule, quoique ça fait quand même plusieurs années que cet esprit de célébrer la fierté LGBTQ+, est présente à Montréal. Bon, l'événement, comme je l'ai dit, sous cette forme a été fondé en 2007, à l'initiative des communautés de la diversité culturelle et de genre. C'est aujourd'hui le plus grand rassemblement en son genre à travers toute la francophonie. Et j'ai relevé quelques... parce qu'il y a évidemment, c'est des manifestations culturelles et communautaires, Mais donc, je me suis concentrée sur surtout ces manifestations culturelles. Alors, samedi, le 11 août, un grand spectacle des femmes de tête. Donc, Debbie Tebbs, qui fera plusieurs DJ sets durant la semaine. Donzel, Milk and Bone, Laurence Nerbonne, qui seront en spectacle. Et toutes les activités que je vous nomme sont gratuites et accessibles. Donc, ça se passe au Parc des Faubourgs.
Oui, le site est accessible. Effectivement, vous avez raison de le préciser. Hein.
Oui, tout à fait. Et le 15 août, au Parc des Faubourgs aussi, ce sera Jimmy Moore, qui est un personnificateur extrêmement connu. Donc, ça fait 20 ans qu'il fait carrière à personnifier les plus grandes stars de la planète, mais il est surtout célèbre pour être le meilleur personnificateur de Madonna. Et donc, pour souligner ses 20 ans de carrière, il présente en exclusivité The Blonde Ambition Tour. Donc, à ne pas manquer, surtout si vous êtes des amateurs de Madonna. Le 17 août, j'ai relevé ça, une activité gratuite au Musée des Beaux-Arts de Montréal, la projection du film Major. C'est un documentaire qui explore la vie de l'activiste Miss Major Griffin Gracie. C'est une aînée transgenre noire ayant été incarcérée qui milite depuis plus de 40 ans pour les droits des femmes trans de couleur. Je l'ai décrite avec plusieurs étiquettes identitaires qui, mises ensemble, peuvent sembler donner un portrait un peu racoleur, mais c'est pour comprendre que ces luttes recoupent celles des communautés LGBTQ, celles des communautés racisées, celles des droits des femmes également. Donc, c'est vraiment un portrait global. C'est une personne à découvrir et elle sera présente à la projection pour un question-réponse. C'est gratuit, il faut seulement se procurer des laissez-passer. Et le 19 août, il y a le défilé de la fierté. Dès 13h, il y aura un moment de silence à 14h30. Mais donc, on part du coin Metcalfe-René-Lévesque pour se terminer sur la rue Alexandre-de-Sèvres. On part de l'ancien secteur LGBT pour aboutir dans le village actuel. On invite les gens à porter la couleur bleue. Depuis quelques années, on s'inspire du drapeau arc-en-ciel. Cette année, c'est autour du bleu. Et il y a des espaces réservés aux personnes à mobilité réduite aux angles du boulevard René-Lévesque et de la rue Place Philips et du boulevard René-Lévesque et de la rue Amherst. Donc, à ne pas manquer. Et évidemment, il y a des pièces de théâtre, des expositions, l'exposition d'affiches au cinéma du parc, entre autres. Plein de choses à voir durant ces 10 jours de célébration de la fierté.
Alors, je sais que vous aviez un programme un petit peu plus conséquent, mais il nous reste plus qu'une petite minute. Alors, je me demandais si on pouvait parler de présence autochtone.
Absolument, présence autochtone qui commence aujourd'hui jusqu'au 15 août. Alors, j'en avais déjà parlé dans ma chronique du 24 juillet. C'était suite au lancement de la programmation en conférence de presse. Quelques activités à l'inscription. Entre autres, sur la place des festivals, il y a beaucoup d'installations d'art visuel. On plonge dans le monde contemporain pour mettre en valeur les arts traditionnels. Mais sinon, vraiment, moi, l'événement à ne pas manquer, c'est la projection de la réalisatrice Abenakis, Kim Obonsawin, « Ce silence qui tue ». C'est le 13 août au Square Cabot dans l'arrondissement Ville-Marie. C'est gratuit et ça s'inscrit dans la programmation de Cinéma sous les étoiles. À ne pas en manquer vraiment.
Merci infiniment. On peut peut-être rappeler qu'il y a un site aussi, hein, si on veut en savoir plus, www.musiquenomade.com. Maxime Despomerleau, c'est toujours un plaisir de vous entendre.
Ben également, plaisir partagé.
Merci Maxime.
Bonne vadrouille, bye.
Je pense à ma grand-mère, à la vie qui passe, le canot d'un.
Gracieuseté de musique nomade. On vient d'entendre Laura Nico et Sonny Duval avec la pièce Mishkadan Mamo.
Hélène Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Faut-il rappeler que, parce que maintenant vous êtes célèbre hein, sur Canal.
Apparemment.
Hélène Gauthier, qui est bibliothécaire au SQLA, autrement dit le service québécois du livre adapté, qui vient vous présenter à chaque semaine des livres audio à vous mettre entre les oreilles.
Oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre dont j'ai pas eu la chance de vous parler lors de ma dernière chronique.
Oh, que vous en étiez fru, ma pauvre chérie, mais là, ça y est, vous êtes là.
On s'est laissé sur un coït interrompu, allez-y.
Et là, je continue. Donc, c'était L'Idole de Louise Desjardins, une auteure qu'on connaît, je crois, quand même très bien. Poète et romancière qui est née à Rouyn-Noranda. On la connaît surtout pour Darling, qui est paru en 1998. Et je me dois de vous mentionner que son fonds d'archives est conservé au Centre d'archives de Rouyn-Noranda. Donc, de Bibliothèque Archives nationales du Québec, nous avons des centres d'archives partout et le sien est conservé à Rouyn-Noranda. Donc, ce roman se passe en Argentine. Louise Desjardins adore l'Argentine. Elle y a passé une résidence d'écriture de 2 mois et elle a obtenu un prix qui vient du secrétariat de la culture de la nation argentine. Donc, son projet a été retenu par leur pays. Elle y a passé beaucoup de temps. Donc, ça lui permet vraiment de très bien décrire le pays. Donc, Buenos Aires est extrêmement présent dans ce roman, ainsi qu'Evita Perón, qui fait une partie intrinsique de l'histoire de l'Argentine.
Figure incontournable. Hein?
Exactement, son image est partout. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Évelyne Perón. Je vais le mentionner, Évelyne Perón, c'est la version québécoise d'Eva Perón, quand même, son nom. Il y a des belles connexions. Qui déménage à Buenos Aires alors qu'elle a perdu son conjoint, elle a perdu sa mère, elle est à un certain âge, elle décide de finir sa vie par elle-même, seule, à Buenos Aires, de bien vivre comme elle l'entend. Donc, ça parle de ça. C'est très intéressant. Ça décrit très bien la ville. On parle aussi de célébrité, la relation que les gens ont avec la célébrité, avec cette image aussi de cette femme, Evita, c'était son nom, Eva Perón, qui fascinait la mère de l'héroïne. Donc, ça s'appelle « L'idole » de Louise Desjardins. Ensuite, je voulais vous parler d'un roman qui a fait beaucoup parler de lui dans les quelques dernières années. Ça s'appelle, excusez-moi, je me cherche dans mes notes, Homo Sapiens de Niviaq Korneliussen. Et là, je vais vous l'appeler Niviaq, N-I-V-I-A-Q, Korneliussen, K-O-R-N-E-L-I-U-S-S-E-N.
Donc, sinon, vous permettez simplement de dire que si vous n'avez pas eu le temps de le noter, vous savez, parce que ça, on ne le dira jamais assez, que toutes les émissions, Vous pouvez les réentendre sur le net, hein, si vous allez sur le site vusezvoix.canalem.org, etc. Si vous faites juste Canalem, vous allez tomber sur nous, vous faites émission, Aime l'été, et vous allez réentendre tout ça.
La balado-diffusion. On peut quand même rappeler le titre qui sera probablement plus facile à trouver.
Oui, oui, c'est quand même assez unique comme titre.
Oui, exactement.
Donc, c'est Homo sapiens.
Homo sapiens.
Donc, cette
plus
auteur,
de chance.
Elle vient du Groenland. Elle est très jeune, elle a 27 ans. Donc, le livre est paru il y a quelques années au Groenland, a explosé en Europe, extrêmement populaire en Scandinavie. Et le livre a été vendu, ça, je trouve ça quand même assez intéressant, à plus de 3000 exemplaires au Groenland, ce qui, pour le Groenland,
c'est
est
énorme.
Parce qu'il y a 56 000 habitants au Groenland.
Wow.
Donc, c'est un roman qui est très, très moderne. Donc, souvent, on pense littérature inuit, on est dans la neige, on est dans les igloos. Ouais. C'est pas du tout le cas.
C'est pas Agagouk, là.
Non, vraiment pas. Donc, on est vraiment dans les discothèques, dans la modernité, dans la vie de nuit, avec des jeunes qui vivent au Groenland, qui ont des vies très plus difficiles, des personnages qui ont des personnages queer, donc différentes sexualités, différentes identifications de genre au Groenland, ce qui est peut-être pas toujours évident, comme ça l'est pas évident à plein d'endroits. Donc, un roman qui a beaucoup fait parler de lui, un roman choc que je vous conseille fortement.
Homo sapiens de Niviaq Corneliusen. Oh, retour au Québec.
Oui, oui, je vous promets, on traverse l'océan. 117 Nord de Virginie Doucet-Blanchette. C'est un roman qui m'a vraiment surpris. Je n'avais pas entendu parler de ce roman-là jusqu'à temps que je le vois arriver au SQLA, puis qui m'a pris de court parce que moi, c'est venu me chercher personnellement parce que je viens de l'Abitibi-Témiscamingue.
OK.
Oui, je viens de Val-d'Or. Et ce roman parle de la 117, donc ce chemin entre Montréal et Val-d'Or, que l'on fait constamment lorsque notre famille vit là-bas et que c'est quand même assez long, c'est dans la forêt. Donc, ça parle d'une jeune fille qui a quitté l'Abitibi, qui a quitté Val-d'Or et là, qui fait le chemin entre les deux, qui s'ennuie, qui se sent en exil. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que Virginie Doucet-Blanchette, qui est très jeune, elle a 27-28 ans, je crois, elle est enseignante au Cégep. Et en entrevue, elle disait que plusieurs de ses étudiants sont de nouveaux arrivants et qu'elle sentait une connexion avec eux, mais qu'elle se sentait qu'elle n'avait pas le droit d'en avoir une parce qu'eux ont déménagé, vraiment, ont quitté leur pays des fois dans des circonstances pas toujours positives, vivent extrêmement loin. Elle peut toujours retourner chez elle, mais elle sent quand même une connexion.
Petit sentiment d'imposture ici.
C'est ça, mais quand même, dans son livre, vraiment, c'est fou, ses descriptions, t'as vraiment l'impression d'y être. Des petites descriptions ça m'a émue effroyablement. Et vraiment, ce sentiment d'exil, elle le traduit très bien.
Avez-vous un petit extrait? Tu voulais dire
quelque chose? Oui, j'avais une question à vérifier parce que j'entends ça et on parle de la 117. Est-ce que c'est un roman qui se passe plus dans le physique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, des aventures qui arrivent, ou on parle d'un aspect psychologique du personnage
c'est
à travers?
Très psychologique, c'est très psy, oui, hein? Dans le voyage entre les deux. Donc oui, c'est très...
On parle d'un véhicule intérieur à travers une route.
Exactement, c'est un roman très, très court, cool, qui se lit très rapidement. Donc j'en ai quelques petits extraits. Il faut en moyenne 6 heures de Montréal à l'entrée de Val-d'Or, 529 kilomètres. Sur la carte, les rivières et les lacs s'entrelacent dans la zone verte du parc de la Vérendrye. Il n'y a rien ou presque que des arbres sur des kilomètres à n'en plus finir. C'est une zone où on avance dans un sens comme dans l'autre, la musique à fond pour s'engourdir, les membres qui s'ankylosent et qui fourmillent. Avec la tercelle, il faut s'arrêter une fois pour mettre l'essence. On se rend avec le réservoir plein, mais de justesse. J'ai essayé. À force d'aller-retour, toutes les voitures croisées en chemin se ressemblent. Les saisons se replient les unes sur les autres, des trous se creusent dans la route, on les remplit, ils se creusent encore. L'asphalte est un long ruban sur lequel nous glissons, un tapis roulant qui repasse inlassablement sous les roues de la tercelle. Je n'avance pas, je tire à moi l'horizon. Le pare-brise est un écran étanche, un mur de verre où projeter des images.
Ah,
c'est
tellement
le premier chapitre.
Bien.
Ça, c'est un chapitre.
Wow.
C'est court, ça dit très rapidement ce que ça veut dire et ça le fait très bien.
Mm-hmm. Il nous reste une petite minute, pour un autre.
Un petit dernier,
allez, pour la route.
L'art de se perdre, d'Alice Zénitaire. Donc, c'est un roman Zénitaire, je crois que ça se prononce de cette façon, Zenitaire, une romancière française. qui est un père algérien et une mère française. Donc, elle parle ici de l'Algérie. On a plusieurs... Ça c'est venu me chercher parce qu'on a plusieurs usagers qui aiment les sagas familiales, mais celles qui se passent au Québec, ça, c'est une saga familiale, mais d'une famille algérienne et française.
Sympa.
Donc, ça peut faire un peu de différence dans les lectures. Donc, c'est un homme qui quitte l'Algérie pour la France et c'est toute l'histoire de lui, ses enfants, ses petits-enfants et cette relation entre l'Algérie et la France qui est quand même intéressante.
Ouais.
Donc,
chargée d'histoire.
Exactement.
Hein?
Ouais, donc, c'est vraiment palpitant.
Merci beaucoup, Hélène Gauthier, bibliothécaire au SQLA, qu'on retrouve régulièrement à M l'été, mais qu'on va retrouver d'ailleurs en saison régulière aussi, notamment dans le cadre de l'émission des livres plein les oreilles. Merci, Hélène.
Un plaisir. Merci.
Dans la série La Madame, elle est contente lorsqu'on déboulonne des mythes sur la bouffe.
Les deux de la journée. Deux.
A-t-on surestimé les oméga 3? Les oméga 3, présumés efficaces pour prévenir les maladies cardiovasculaires, ils auraient aussi un effet sur la dépression, l'arythmie cardiaque, la maladie d'Alzheimer, l'hypertension, l'arthrite, l'hypercholestérolémie, je l'ai dit, et le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, le célèbre TDAH. Pour arrêter de fumer, mais oui, prenez des gélules, même chose pour les douleurs menstruelles. Eh bien voilà qu'une publication importante dans le monde scientifique vient mettre en lumière une faille majeure. Le 18 juillet, le groupe de recherche Cochrane publiait les conclusions de sa méta-analyse visant à évaluer les effets des oméga-3 sur les maladies cardiovasculaires. Sa synthèse implique quand même 79 études auprès de plus de 112 000 personnes. On rit pas, ça devient vraiment sérieux. Eh bien, oui, augmenter sa consommation d'oméga-3 peut contribuer à réduire légèrement les triglycérides et qui, à un taux trop élevé, augmente des risques de maladies, bien sûr. Leur consommation, c'est également, peut augmenter légèrement le taux de bon cholestérol. Toutefois, la prise de suppléments d'oméga-3 a peu ou pas d'effet dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Eh bien, voilà. Après, les fibres...
Après, on est déçus.
Voici les oméga 3. Pouf! Allez, une autre statue de déboulonnée. Let's go.
Sache que parlant de bouffe, je vais te parler d'alcool cette fois. Et à la maison, sachez qu'à Sherbrooke, on transforme des bouteilles de vin en trottoir. Donc, ça ne sert pas qu'à être bu, ces bouteilles. Du génie, puisque le verre utilisé pour les bouteilles de vin, appelé verre mixte, ne se recycle pas facilement et c'était dans la nuit du mardi au mercredi 7 au 8 juillet, je crois, si ma mémoire est bonne, que les 8 premiers trottoirs faits à base de poudre de verre ont été faits à Montréal et c'est un professeur de l'Université de Sherbrooke qui est à la base de la chaire de recherche qui a reçu les fonds pour faire ça et il y a plusieurs projets à venir dans le domaine comme les poutres de ciment. Entre autres, je trouve que c'est une très belle façon de réutiliser nos rebuts.
Mais oui, je suis contente de participer à ça. Voilà, mes amis, on va se quitter sur un éclat de rire. Et ça fait du bien aussi par les temps qui courent. Merci Emmanuel Robitaille.
Merci à toi, Clotilde.
Jean-Sébastien Laliberté en régie. C'était Clotilde Saïa, Aime l'été et à Canal M. Et merci à tous nos invités. Salut.